I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Banana, banana, banana.
Alors moi, j'ai fait une expérience incroyable, indescriptible, qu'une personne lambda ne pourrait pas connaître, ce qui est quand même oufissime. J'étais à ma fenêtre, tranquillement, en train de fumer mon petit bédodo avec mes écouteurs à fond dans les oreilles. Et au moment du drop de la musique, une sensation mais incroyable m'envahit. Et vraiment, c'était un truc de ouf. Un truc de ouf.
Un truc de ouf. Cette sensation, ce qui est fou, c'est qu'elle est à la fois complètement unique et en même temps, totalement banal. Tout fumeur s'est un jour pris en pleine face l'intensité cosmique de la musique.
D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui unit tous les fumeurs de ouanges du monde, c'est bien l'amour de la musique. Enfin, il me semble. Si c'est pas votre cas, signalez-vous. En tout cas, après 25 épisodes de Banana Kush, déjà, il était temps de se pencher sérieusement sur la question.
Nous allons donc poursuivre notre mission civilisatrice.
Weed et musique, Because I Got High, c'est l'épisode 26 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Oh, ja, ja, ganja, babi, babi, Babylon.
Viens voir ça, Mathias. Ce petit monsieur se promène avec 30 boulettes de drogue dans son derrière.
Ah bah voilà.
Bah voilà. Merci Christophe, ce que tu viens de faire, c'est très exactement ce que nous allons tenter d'éviter hein, dans cet épisode, à savoir vous servir des clichés au kilomètre sur la fumette et le reggae.
Et moi au début je croyais que les gens qui fumaient c'était toujours les mêmes. Tu sais, genre des Rasta, mode Bob Marley et tout. Cliché !
Parce que c'est un peu le risque, il faut être honnête quand on s'aventure à parler de weed et de musique. D'ailleurs on ne parlera presque pas de reggae ni de dub dans cette émission. Voilà, c'est dit.
Bah alors on va parler de quoi du coup ? Bon, en fait c'est vrai que depuis le début de ce podcast, le sujet il est omniprésent. Par la force des choses, hein. Nos invités nous en parlent, d'ailleurs on les entendra dans cet épisode, vous nous en parlez et on vous entendra aussi dans cet épisode.
Mais on ne s'était jamais risqué à décortiquer les usages et les imaginaires qui lient le cannabis et la musique. Alors on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et de disséquer les relations nombreuses, complexes entre le pilon et le bon son. Quelle est l'influence concrète de la beuh sur notre appréhension de la musique ? Ça, c'est la question qu'on a posée à une chercheuse québécoise.
Et puis, dans la deuxième partie de ce podcast, on s'est concentré sur un genre musical en particulier, le rap. Que nous dit l'omniprésence de la fume et de la bicrave dans les textes des rappeurs ? On en a discuté avec le patron d'une radio 100% hip-hop.
Mais pour ouvrir cet épisode, vous nous avez d'abord raconté vos meilleures expériences de fonce-D auditive.
Là, ça fait 2 mois que j'ai arrêté, mais c'est vrai que j'ai toujours fumé... En musique, genre c'est impossible de faire autrement. Fumer pour moi en écoutant de la musique, ça permet vraiment d'écouter en fait la musique en profondeur, d'entendre la prod derrière, de m'intéresser à chaque petite note, chaque petite variante dans le son. Et même les bacs, il y a un tas de choses qu'on ressent beaucoup plus en fait. Ces derniers mois, en tout cas, juste avant que j'arrête de fumer, ça a été l'alaïs à fond, genre. Quand tu l'écoutes, c'est fonce-dé, c'est trop grave. Autant sa voix même est très très grave, autant des fois avec l'autotune, elle va passer par un peu d'aigu. Moi, ça me fait voyager. En un album, en fait, quand t'es fonce-dé, tu passes par toutes les planètes, tous les univers, vraiment. En fait, la plupart du temps, quand j'écoute la Laïs, je me sens vraiment dans du coton.
saute quand l'appétit parasasie. J'suis pas tel si j'ai pas soif, j'suis sous sa coulée. Coulée, 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 coulée. Dans le lit en 400 mètres, brasse coulée. On l'élève sans brosse dans la foulée. Tout ce que je touche devient doré sous mes mains.
C'est doux, c'est agréable, c'est perché. C'est vrai qu'on se sent comme dans du coton.
Perché, mais concentré. Focus sur la moindre vibration, sur la couleur des notes, sur le murmure des machines. D'ailleurs, c'est ce que nous ont raconté de nombreux invités, hein. Sébastien Tellier, Joker, Liliane Rovert, Lorraine Bastide. Ils et elles sont tous et toutes venus dans Banana Kush et nous ont tous et toutes raconté leurs expériences de mélomanes enfumés.
J'aime beaucoup enfumer quand je fais de la musique, en fait, parce que fumer un joint, ça fait qu'on reste bien focus sur ce qu'on fait. Il y a, on pourrait, dans la musique, quand on fait la musique, on est amené à réécouter souvent le même petit bout. C'est-à-dire on travaille l'intro du morceau et on réécoute cette intro, je sais pas, 1000 fois, enfin, peut-être plus même. Et ça permet de pas se sentir écrasé par cette répétition infernale. Le joint en lui-même, c'est pas une source d'inspiration. La vraie source d'inspiration, c'est la ville, le cosmos, tout le tintouin, tout ce qu'on voudra, la rue, tout, le jardin, enfin tout. Mais ce qu'il y a, c'est que la musique nécessite un tel acharnement que ça permet de s'acharner peut-être plus longtemps que quelqu'un qui aurait pas fumé, qui au bout de 2 heures dira « Ah putain, j'en peux plus, là, c'est bon. » Si t'es sous joint, ça, t'es dans une sorte d'état de transe qui fait que ça fait 6 heures que tu retravailles les deux mêmes notes, mais tu t'en rends pas compte. C'est comme du dopage.
Je fume cette putain de dope. Ça me maintient un focus. Ça me met dans le son.
C'est peut-être un truc de vibe aussi. Peut-être qu'on réfléchit moins avec son cerveau.
C'est
un
ça,
peu plus
mais
avec
même
son
on
corps.
Ressent mieux la musique, on va pas se mentir. Hein. Après un joint, il y a des choses que j'entends mieux. Il y a des choses que j'entends plus dans la musique que lorsque je l'ai écouté 2 minutes avant et que j'avais pas entamé ce joint-là.
Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos.
Ben, chez les Jasmine, on fumait. Je ne vais pas le citer, mais j'avais un ami, un immense musicien. Enfin, j'en ai connu beaucoup, des grands musiciens. Il pouvait fumer pour jouer, ça ne le dérangeait pas du tout, il jouait divinement. Et puis, il y en a d'autres que ça dérange. Je sais que, par exemple, ça je vais le citer, parce que c'était un grand ami, Kenny Clark, a travaillé à un moment donné avec Louis Armstrong, et il avait fumé. Et pourtant, Kenny Clark, c'est pas quelqu'un qui joue à côté. Hein. Je ne sais pas s'il a joué à côté ou qu'est-ce qu'il a fait, mais à la fin de la soirée, Louis Armstrong lui a dit « after the gig, man, après le boulot ».
Justement, fumer un joint et écouter de la musique psyché, c'est très très agréable. J'avais un pote qui avait une 205 et on s'entassait, on était 5 dans sa 205. Et là, on fumait des joints à 5 dans la bagnole. Et on écoutait King Crimson, on écoutait Pink Floyd, on écoutait des trucs psychés, Wyatt, etc. Et ça, c'était des grands moments de musique pour moi. C'était épique, j'étais avec mes potes, on écoutait ça religieusement, on y croyait, quoi. C'était notre vie, c'était notre blaze et tout, quoi.
La musique des sphères, mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe ?
Ce cannabis adolescente, il était quand même très rattaché à tout un univers musical. Mm-hmm. Moi, j'étais un peu dans la bande des skateurs. Donc, on écoutait du rap, on écoutait du raga, du reggae, évidemment, énormément de Bob Marley. et donc, ça allait avec, quoi. C'était dans le package, en fait. Hein. Il fallait avoir son petit ami skateur qui avait le froc qui descendait jusqu'au milieu du cul. Et puis, il y avait des soirées très, très enfumées où on fumait beaucoup, beaucoup de shit, où il y avait des bangs qui tournaient. Et voilà, c'était l'univers des années 90.
Banana Kush.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard?
Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
Banana, 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 banana.
Mais que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau pour que l'écoute et la fumette soient un cocktail si explosif ?
Comme en France le sujet reste tabou, il a été très peu exploré par les scientifiques et c'est donc évidemment au Québec que nous avons cherché notre experte. Élise Cournoyer-Lemaire est doctorante en santé communautaire et en toxicomanie à l'université de Sherbrooke au Canada. Elle travaille notamment sur le rôle de la musique dans la vie des jeunes usagers de drogue. Une discussion s'imposait donc avec elle pour y voir un peu plus clair.
Bonjour Élise Cournoyer-Lemaire.
Bonjour.
Alors au fil de nos podcasts, on a récolté pas mal de témoignages d'usagers et on a réalisé qu'un grand nombre d'entre eux apprécient tout particulièrement d'en consommer en écoutant de la musique. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer pourquoi ?
Je commencerai par dire que, comme tout stimulus qui amène du plaisir, la musique agit fortement sur les circuits du plaisir et de la récompense. C'est-à-dire qu'elle stimule les circuits du cerveau qui produisent et relâchent la dopamine, la sérotonine, les endorphines, ce qui contribue beaucoup à l'expérience du plaisir et du sentiment de bien-être. La musique mène aussi à l'activation du lobe temporal qui est impliqué dans la perception sensorielle, dont l'audition, en fait. Puis en parallèle, le cannabis, comme d'autres drogues aussi, agit aussi sur les circuits du plaisir et de la récompense et sur le lobe temporal, ce qui vient expliquer que le cannabis peut changer les perceptions, en fait, et les expériences sensorielles chez les personnes qui en consomment. Puis considérant que la musique et le cannabis portent tous les deux des effets sur ces circuits-là qui sont très similaires dans le cerveau, leur utilisation combinée peut mener à des interactions particulières là, qui vont mener à des expériences sensorielles et de plaisir, on peut dire, amplifiées.
Alors là, vous nous avez expliqué ça en termes assez scientifiques. Si on devait résumer tout ça peut-être un petit peu plus simplement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on lance un morceau de musique après avoir fumé un joint ?
C'est qu'en fait, quand on aime beaucoup une musique, elle peut avoir un effet assez explosif, en fait, dans notre cerveau, qui va nous amener à vivre des émotions, du plaisir. Puis le cannabis peut avoir ces effets-là aussi. Puis les deux ensemble, ça vient juste s'amplifier, se combiner, en fait.
Qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce que on va se mettre à écouter de la musique parce qu'on fume des joints ? Ou est-ce qu'on va fumer des joints parce qu'on écoutait de la musique appropriée ?
C'est très difficile de les dissocier de cette façon-là. C'est une relation un peu comme la poule et l'œuf. On ne sait pas lequel vient en premier vraiment, mais on sait que les deux encouragent l'autre, en fait, si je peux dire. Vu les impacts sur l'expérience sensorielle du cannabis, ben ça peut venir en fait amplifier les sons, amplifier notre perception de la musique, des rythmes, des subtilités dans la musique. Fait que pour les personnes qui aiment la musique, ça peut être super stimulant, puis ils peuvent vouloir consommer davantage pour justement revivre ça dans la musique. C'est un peu une roue là qui tourne.
Et les pièces sont vides à présent et je suis libre de mon temps. Faire un café, fumer un joint me semble intelligent. La chose à faire en ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi.
Il y a plusieurs univers musicaux qui ont toute une imagerie liée à la consommation de cannabis. Alors dans les témoignages qu'on a récoltés, certaines personnes nous ont parlé du rock psychédélique, d'autres du reggae évidemment, d'autres du rap. Comment vous expliquez, comment vous analysez la place que le cannabis peut avoir dans certains genres musicaux en particulier ?
Il faut se rappeler que ces mouvements musicaux-là s'inscrivent dans une période historique aussi. Si on pense par exemple à la musique classique, qui est généralement pas du tout relié à la consommation. Il faut se rappeler que cette musique-là a été créée, valorisée beaucoup par des familles de la haute bourgeoisie, par exemple, qui étaient destinées à des personnes très éduquées, des personnes blanches, tandis que des styles comme le rap sont nés dans la rue, dans des quartiers défavorisés beaucoup. Il y a des personnes qui sont plus tentées d'aller vers ces musiques-là parce que ça les représente, ils se retrouvent en quelque sorte dans une histoire racontée par la musique ou par les artistes qui l'interprètent. Ça fait du bien aussi de se sentir compris, de se sentir moins seul.
Tout le monde se bat pour avoir sa place. Tout le monde veut être vu et entendu.
Dans ce que vous dites, il y a aussi, en fait, on peut retrouver le même rôle entre le cannabis et certains genres de musique pour un jeune, pour un adolescent, qui va être le rôle de socialisation, en fait, de s'identifier à un groupe et de participer à un groupe. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui va attirer vers, alors que ce soit le rap, le rock, le reggae, peu importe, mais un genre auquel on va s'identifier, et le cannabis qui va permettre de s'identifier, de se socialiser?
On peut appeler des communautés musicales, en quelque sorte, quand les gens vont se dire rappeur ou rocker, ils s'identifient en quelque sorte à une communauté qui va avoir souvent de la consommation. Parfois, pour être accepté dans un groupe comme ça, il va avoir des pressions à consommer pour pouvoir développer ce lien d'appartenance-là.
Parmi les témoignages qu'on a récoltés, il y a aussi des témoignages de personnes qui font de la musique qui apprécient d'en consommer en faisant, qui voient presque le cannabis comme un outil de travail qui va permettre de mieux se concentrer, d'être plus à l'intérieur de sa musique, d'entrer dans un état d'esprit qui est propice à la création.
Ce qu'on peut voir chez les musiciens, c'est que oui, la consommation et dont le cannabis peut être utilisé comme outil pour favoriser entre autres la créativité. C'est par son effet, comme je disais plus tôt, sur le lobe temporal qui vient modifier un peu toute l'expérience sensorielle. On devient plus sensible à des détails, à des sons, on découvre de nouvelles sonorités aussi. Puis même si on joue un instrument, ça va être senti peut-être autrement, physiquement là même. C'est quelque chose qui peut réduire le stress aussi. Donc des fois, des musiciens ou les personnes qui ont des groupes peuvent vivre un stress ou une pression liée à la composition ou à la performance aussi de musique. Donc, c'est sûr que cette combinaison-là d'utiliser du cannabis, ça peut réduire le stress et donc être plus disponible, en fait, à créer ensuite ou à performer.
Et une bonne omelette aux herbes, une!
Oh, merci, François.
Même si il faut la rappeler, et on l'a rappelé souvent, et les musiciens qui ont témoigné dans cet épisode nous l'ont dit, fumer du cannabis ne va pas nous rendre créatifs si on n'a pas déjà en nous une force de création.
Oui.
Et curiosité, est-ce que vous avez déjà dans vos études entendu des personnes qui vous disent au contraire, moi j'apprécie pas du tout de consommer du cannabis ou d'autres drogues et d'écouter de la musique parce que ça devient trop ou pour toute autre raison?
Si on aime une musique puis qu'on aime consommer, ça, généralement ça se passe bien. Mais si on tombe sur une musique qu'on trouve désagréable ou qui rappelle de mauvais souvenirs, parce qu'on sait que la musique peut être associée à toutes sortes de choses aussi, oui, il y a beaucoup de risques en fait que ça amène à une expérience négative.
Banana Kush, Camille Diao, Christophe Payet.
Bon, je vais te raconter une petite anecdote, Camille, mais faudra pas la répéter. Hein. Je connais quelqu'un qui, il y a bien longtemps, est allé à un concert du groupe Zombie Zombie après avoir mangé un space cake surdosé. Alors, il se trouve qu'Étienne Jomé, l'un des musiciens de ce duo, disait à l'époque vouloir avec cet album exprimer le sentiment d'angoisse et de peur. Eh bien, figure-toi que ça a hyper bien fonctionné, alors attention au bad trip musical.
Adieu la vie, adieu l'amour.
Vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.
On se demande bien qui est cette personne, hein, d'ailleurs, mystère. Mais heureusement, vous, nos auditeurs, vous ne nous avez raconté que des bons trips, hein, des très très bons trips même.
Ah, ce que j'aime bien quand on fume, c'est qu'il y a cette étrange connexion entre le cerveau, les oreilles, et les sonorités ont un autre effet. Cette chanson-là, par exemple, ça me rappelle des souvenirs, je ne veux pas dire que c'est ma Madeleine de Proust, mais quand je l'entends, ça me rappelle une époque où j'avais une coloc, et dès qu'on rentrait du taf, on mettait cette chanson-là, et on roulait un joint, et ouais, ça nous permettait de nous défouler de notre journée, on se racontait notre journée, on pouvait passer à autre chose. Donc du coup, dès que j'entends cette chanson, je suis un peu conditionné, un peu comme avec des réflexes pavloviens, mais ça me met dans le mood et envie de me détendre et d'enrouler un... Et de passer à autre chose. Et de là, il y a eu une envie de faire de la musique qui est venue. Du coup, je me suis acheté un Haikai.
De chez Chit Chit Padmark.
Une sorte de petite console avec des boutons sur lesquels on enregistre des samples et où on peut composer des sons. C'était mon meilleur achat. C'était, je me suis retrouvé à passer des heures et des heures à essayer de perfectionner mes 10 secondes de mélodie pour que ça sonne parfaitement bien, puisque dans ma tête, avec l'effet l'effet du canard, ça me donnait une concentration extrême et je m'arrêtais pas avant d'avoir trouvé la sonorité qui me faisait ressentir cette chose particulière que je recherchais sur l'instant.
Mais tu sais, c'est pas vraiment du piano, c'est des trucs, comment on peut appeler ça, du électrique, puis les mecs ils jouent derrière comme des cons en trépignant.
Banana Kush.
Tu n'es pas une vraie banane, et tu es un humain dans une banane.
Non mais laissez-moi, moi. Non mais laissez-moi, moi.
Dans la banane.
Maintenant qu'on a abordé le lien récréatif entre weed et musique, je vous propose de nous pencher sur un genre musical en particulier, un genre où le cannabis est omniprésent, le rap. Et dans le rap, la weed, eh ben c'est aussi un business. Alors forcément, on s'est demandé, est-ce que là encore, weed et musique font bon ménage ?
Avec qui faut signer ? Moi je pense qu'il faut aller avec Mounir.
Mounir ? Mais d'où tu penses encore à lui, gros ? Il t'a dit quoi exactement ? Qu'il fallait rester en indé comme PNL, c'est ça ? Hein ? Il connaît rien du tout à la musique et tu le sais très bien, Clément. Il fait ça que pour blanchir son oseille.
Toi, tu vois que le négatif avec Mounir. T'oublies qu'il y a du positif.
Quoi comme positif ?
La protection. Avec Mounir, on est tranquille dans la street.
Bah ouais, la sécurité avant tout, poteau. Combien de rappeurs ils sont sortis de leur showcase et se sont fait monter en l'air par des équipes ? Hein ? Tu crois que si ça nous arrive à nous, c'est ton kishman, il va faire un truc ? Il va rien faire !
Et en plus de ça, c'est Mounir qui m'a assuré quand j'étais en centre.
Mais frère, si t'étais en centre, c'est justement parce que t'étais guetteur pour lui. Il est tout plein d'embrouilles, ce mec-là. Et au moins, avec une maison de disques, t'es sûr de toucher de la thune.
Quelle thune ? Jungle, il propose zéro, Mounir, il me propose 20 000 euros en cash tout de suite.
Ouais, j'étais là.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la série de Canal+, Validé, qui met en scène le rappeur Attic dans le rôle d'un jeune dealer de shit qui a l'ambition de devenir rappeur, justement. Et vous l'aurez compris, son chef de réseau voudrait bien investir dans sa musique.
C'est une fiction, évidemment, mais une fiction qui nous parle du réel. D'ailleurs, écoutez ce que nous en disait dans Banana Kush le rappeur Joker, Sébastien Tellier, ainsi qu'Eric, chef de projet dans la musique, qui a quand même pris 3 ans de tôle.
Pendant les années lycée, il a pu m'arriver de vendre ponctuellement, je dirais un petit peu comme tout le monde en fait l'a fait. Hein. Quand t'as pas d'argent, ça te permet effectivement de consommer gratuitement, entre guillemets. Est arrivée une période ensuite dans ma vie où j'ai commencé en fait à travailler avec un label de musique dont l'activité musicale était aussi dirigée par quelqu'un qui gérait un trafic de cannabis. Et donc j'ai pris part aux deux. À l'activité musicale et au trafic. Et on s'est fait arrêter par les gendarmes, donc une première fois en 2012.
Moi, adolescent, j'ai vendu trop de trucs. J'ai vendu trop de drogue, moi et mes frères. La chanson, on a commencé avec ça. Donc. Les heures de studio, les premières heures de studio qu'on s'est payées, Davidson, il cravait comme un malade dans tout Paris. Et tout le monde sait autour de moi, même ce qui m'a permis moi de pouvoir m'exprimer et chanter des chansons d'amour sans qu'on me dise ah, c'est un mec fragile.
Un vrai mec.
Ouais.
C'est que tout le monde sait autour de moi comment notre adolescence s'est passée au quartier, tu vois.
C'est un bon sujet, de toute façon il suffit d'écouter le rap d'aujourd'hui, le rap mondial. Hein. C'est sympa de parler de drogue, c'est sympa.
ODD,
etc. ça le fait quoi, il y a un côté glamour, il y a un côté... Un rythme qui tue et un mec qui déblatère des trucs sur la drogue, ça marche bien.
Ça marche à tous les coups.
C'est efficace, voilà.
Banana Kush.
Yes, we have no bananas.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today. Bananas today.
Alors, entre fiction et réalité, storytelling et récits documentés de la rue, on a voulu en savoir plus sur les liens entre la Bicrave et le rap game. On est donc allé rencontrer Bruno Laforesterie, le directeur de Move, la radio rap du service public. Avant Move, Bruno Laforesterie a longtemps dirigé une autre radio qu'il a fondée, Génération, dédiée elle aussi au hip-hop et aux cultures urbaines.
L'année dernière, Bruno Laforesterie a publié H, la honte de la République, un essai sur le cannabis et son influence dans la société française. Il se situe donc tout pile à l'intersection des deux sujets qui nous occupent, la weed et le rap français.
Bruno Laforesterie, bonjour.
Bonjour.
Depuis qu'on a lancé Banana Kush, c'est un sujet qui est souvent revenu dans nos entretiens. Il y a deux de nos invités qu'on fait le lien explicitement entre la production musicale et le trafic de cannabis. L'argent du cannabis qui finance la musique, est-ce que c'est un phénomène, toi, que tu as pu observer ?
Je pense qu'il faut, regarder dans l'histoire du rap, il y a plein d'artistes qui ne cachent pas le fait qu'ils ont commencé dans la rue. Et la question du cannabis, en fait, elle est presque secondaire. C'est d'abord la question de dire aujourd'hui, quand on a une musique du ghetto et qu'on n'a pas d'argent, la débrouille, qui est passée souvent pour certains par le trafic, a été un moyen de subsistance. Et donc, effectivement, il y a eu un lien entre le fait que des gens faisaient du trafic pour subvenir à leurs besoins et investissaient dans la musique. Il n'y a pas un lien direct, hein, c'est pas une industrie du cannabis qui finance le rap, parce qu'au passage, il y a des grandes maisons de disques comme Universal qui appartiennent par ailleurs à des groupes médias et à des milliardaires comme Bolloré qui financent la musique, et le rap est aujourd'hui une musique hyper bien financée. Donc il faut être très clair, on n'a pas besoin d'être dans le trafic aujourd'hui, loin de là, pour devenir rappeur, et on n'a pas besoin de l'argent du trafic pour faire de la musique. Mais il est arrivé que des artistes aient ces parcours, il ne faut pas le cacher, eux-mêmes s'en cachent pas. C'est pas parce qu'on devient rappeur qu'on se coupe totalement de son écosystème. Même si eux n'y participent pas directement, ils le savent, ils le connaissent, ils savent ce que c'est un terre-terre, ils savent ce que c'est combien on vend le potentiellement le kilo, ils savent combien fait le bat 7, etc., etc. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut relever. Au-delà du côté financement, ce qui est une chose, et sur laquelle la police et le fisc sont extrêmement performants. Donc c'est presque ça existe, mais c'est presque anecdotique dans l'écosystème. Par contre, sur le récit, c'est intéressant et c'est important aujourd'hui.
Toi, tu sais s'il y a des territoires en particulier en France où le trafic de cannabis et la musique seraient plus liés qu'ailleurs ?
Il y a des cités très connues, ça a été le cas à Marseille, ça a été le cas en Ile-de-France, ça a été le cas dans quelques cités, on sait, on voit très bien, Sevran, il s'en cache pas, il y a eu plein de sujets. Les artistes venant de ces cités racontent ce qui s'y passe. Et c'est ce qui m'a intéressé dans le rap depuis que j'y suis, j'ai pas fait old school, mais bon, quasiment 30 ans. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que racontaient les artistes. Et j'ai toujours considéré que les artistes étaient les haut-parleurs d'une réalité. Et avec leur sensibilité, un artiste est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui va relayer ce qui se passe sur le terrain. Et ce récit du réel, quand on habite à Sevran, ben on raconte aussi ce qui s'y passe et on n'est pas genre l'artiste qui regarde les autres et qui ne fait pas partie de la famille. Oui, les artistes font partie de l'écosystème et ont certainement des copains et des amis qui sont dans le trafic et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Je pense que c'est un écosystème qui est complexe où tous les parcours et tous les profils existent. Mais c'est ça, je pense, le sujet le plus intéressant, c'est qu'à la fois des gens qui ont essayé de s'extraire et qui se sont extraits et qui n'ont plus de relations, puis d'autres qui sont restés dans l'écosystème et qui le racontent dans leur musique. Après, évidemment, il y a deux façons de le voir. Quand on prend Kery James qui raconte sur son vécu quand il perd son meilleur ami, Didier J à l'époque, Las Montana, qui se fait tuer parce qu'il avait décidé d'être dans le trafic, qui raconte la thug life et qui dit justement, voilà, la vie de trafiquant, ça t'amène à la mort. Et puis il y a ceux qui vont raconter en fait que non, finalement, mon pote s'en est sorti, il a fait de l'argent. Voilà. Il y a aussi des récits extrêmement différents.
Des mecs que je connaissais se sont fait fumer pendant que j'étais plongé dans un nuage de fumée. J'ai beau pleurer toutes mes larmes, mais ils ne reviennent pas. Par la cité, ces drames, parfois on ne s'en remet pas.
Et je prends souvent cet exemple de Passe-Passe le Voyage NTM qui était de dire voilà, on parle de en quoi on est foncedé, le côté récréatif du truc, ce qui était quand même ma génération des années 90-2000 où c'était quand même beaucoup ça.
Je suis dans un état, comment dire, très proche du coma. Yeah. Cependant, j'avoue que c'est pendant ces moments que je suis le plus créatif, sûrement. Dans ce cas-là, j'augmente le volume, râleuse, les faits fumés, ne faut pas qu'ils se consument seuls. C'est une coutume, passe le soufflé.
Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'artistes qui ne racontent pas la France D, mais qui racontent ce que c'est le business.
On a l'impression que parfois, dans le cas de certains rappeurs, ça donne presque une légitimité, finalement, de dire qu'on vient de là, qu'on a trafiqué. Je dis ça aussi parce que quand on a interviewé justement Joker, lui nous disait que dealer adolescent, ça lui avait donné la légitimité qui lui avait permis finalement de chanter du rap de lover, sans qu'on le prenne pour une tapette. En gros, c'est ce qu'il nous racontait.
Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est commissaire de police.
Il y a un peu cette idée dans le rap français, dans le rap en général, c'est que si on a vendu de la drogue un jour, on est un vrai.
Il y a deux façons de voir les choses. Il y a certains qui font effectivement ce qu'on appelle la street cred, la crédité de la rue. Et quand on regarde le rap américain de Snoop Dogg à Jay-Z, on va dire pour la faire courte, sans parler de 50 Cent évidemment, et en France c'est la même chose. Oui, évidemment, il y a des artistes qui ont un récit de rue, et le récit de rue passe pour beaucoup par le fait d'avoir été dans l'industrie. Voilà, il faut être très clair. Les plus jeunes racontent ce qui se passe en temps réel. Et puis souvent, certains, avec du recul, racontent qu'en fait, s'ils avaient pu faire autre chose, ils ne l'auraient pas fait. Quand on prend évidemment Petit Frère, dire faites attention aussi, cette vie ne vous mène à rien. L'argent facile n'est pas de l'argent facile.
Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a
déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Et tu disais tout à l'heure que le récit, il s'est un peu décalé, c'est-à-dire que au début du rap français dans les années 90, c'était plus le récit de l'usage, en fait, de la consommation, de la défense, et qu'aujourd'hui, le récit est très centré sur le trafic, sur le business. Comment t'observes cette évolution et comment tu l'expliques peut-être
Bah, c'est vraiment le cœur de mon livre. On est passé de quelque chose qui était festif, récréatif et qui était à petite échelle, à quelque chose qui est devenu une industrie lourde. À très grande échelle, quand on commence à regarder en détail le sujet, on se rend compte que le facteur de chiffre d'affaires peut-être en 20 ans a fait x20. Je veux dire, et aujourd'hui, quand même le gouvernement dit qu'il y a 4000 points de vente en France, peut-être que c'est plus tout et c'est moins, mais c'est genre énormissime, et ces 4000 points de vente, quand vous superposez la carte des points de vente avec la carte des quartiers politiques de la ville, vous rendez compte que c'est quasiment les mêmes.
Que ce que tu me dis, c'est que si le récit des rappeurs sur le cannabis a évolué, c'est parce que l'usage et le marché du cannabis lui-même s'est totalement transformé.
Totalement. Ouais. C'est aujourd'hui, c'est une photographie, de mon point de vue, d'une réalité, et que on est passé de passe-passe le joint à du lundi au lundi, le terre-terre, midi, minuit. Oui, toutes les positions sont possibles.
J'entends midi, minuit, c'est midi. On n'a jamais fini le raté à la fini. Bicrap la matiti, on ne fait pas de chichi.
Départemental.
Qu'est-ce que t'es venu chercher, un 10 ou un 10G, la coke ou du shit?
Puis après, il y a Giuseppe, il y a Niska, ils racontent comment les gens se font tuer, ils se font jamber, ils se font séquestrer. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans le récit réel de ce qui est dit dans le rap, vous avez une photographie qui n'est pas fictionnelle de la situation. Aujourd'hui, le récit se répand sur l'ensemble de la géographie française. Il y a des artistes qui viennent de partout aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, où il y avait grosso modo 3-4 villes, Marseille, Paris, pour la faire courte, et quelques îles, Paris, l'Île-de-France, le 93. Mais maintenant, aujourd'hui, ce récit, c'est Rouen, c'est Strasbourg, c'est toutes les villes de France. Et donc, ça prouve qu'aujourd'hui, la question de cette industrie est extrêmement puissante et extrêmement nationale.
Et dans ton livre, tu écris à un moment quelque chose qui m'a intéressé, c'est que depuis quelques années, les rappeurs se font aussi l'écho du spleen du dealer, des groupes comme PNL, qui font part de cette espèce de mal-être qu'il peut y avoir à passer sa vie à traîner en bas des tours.
Tout à fait. Alors moi, pour moi, il y a cette phase-là aujourd'hui, dont PNL est que pour moi, quand même un des groupes les plus forts. Quand j'ai réécouté pour préparer l'émission, je disais c'est quoi les exemples, Je vis, je viscère de PNL, pour moi un des plus beaux textes écrits dernièrement, qui a un récit du spleen du Bicraveur, nos futurs, et presque nihiliste de mon point de vue.
Je vis, je viscère, je m'en vais.
Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose à prendre en compte sociologiquement dans ce qui se passe aujourd'hui, y compris chez les jeunes. Ils ont, pour certains, beaucoup de recul par rapport à ça et considèrent qu'ils n'ont pas d'autre choix de vie, ce que je trouve dramatique. Et c'est ce que j'ai vu dans mon livre. Je me mets aussi du côté de ceux qui vendent. Et en fait, ce sont aussi des enfants de la République.
On a parlé du récit qui pouvait glorifier la Bicrave, celui qui pouvait le dénoncer dans le rap, dire attention, ça mène à la mort, ça mène à la prison, etc. Il y a un peu une troisième fonction, et t'en parles dans ton livre, de porte-étendard d'une jeunesse qui est abandonnée et qui, en fait, brandit le cannabis comme presque un acte de résistance ou de dissidence. C'est dire, voilà, il y a la méritocratie dont on ne fait pas partie, on n'est pas inclus là-dedans. Et du coup, le cannabis, ça devient un symbole.
Effectivement, il y a des gens a posteriori qui disent l'État n'a rien fait pour nous et le cannabis, c'est l'industrie de la débrouille et c'est par ce biais-là qu'on s'en sort. Et vous avez des chansons, ici c'est Tijuana, il ne faut jamais légaliser. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le rap, il n'y a pas vraiment un mouvement de légalisation. Je veux dire, si on posait la question il y a 20 ans à nos amis de Raga Sonic, d'NTM, je pense que les artistes auraient dit bien sûr, parce qu'il faut la ganja. Si vous posez la question aujourd'hui, j'ai pas fait le sondage, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais attends, clairement c'est la seule façon dont certains s'en sortent, qu'est-ce qu'on fait si on légalise? Et je trouve ça extrêmement intéressant, personne n'a vraiment documenté la société d'après. On n'a pas un plan à 5 ans pour dire bah, le jour où il n'y aura plus de cannabis, que se passera-t-il à Astin, à Sevran, à Bondy, dans les quartiers nord? Et ça manque dans le plan.
D'un côté, si c'était pas à la mode de fumer, ils diraient quoi les rappeurs dans leurs chansons?
Je mange des gros bichocos, je mange des gros bichocos, des petits grains, des granolas, des
Madeleine Maminova. Le biscuit dans mon cerveau. Le biscuit dans mon cerveau. Vanille au chocolat. Fais tourner les Milka.
Mais d'ailleurs, c'est aussi un marché qui est de plus en plus marketé. Le marketing s'engouffre à fond dedans. Certains gros rappeurs aussi. Hein. Aux États-Unis, Snoop Dogg a lancé sa marque de weed. En France, il y a déjà sur le CBD des rappeurs qui se positionnent. Il y a Kalash qui a sa ligne de CBD. Il y a Kobalade qui s'est amusé à en distribuer gratuitement pour faire de la promo. Donc tout ça, est-ce qu'on va pas aussi vers une convergence où le rap et la weed deviennent des produits marketés qui du coup va avoir aussi un impact sur la jeunesse qui est la première cible de ce marché-là?
Évidemment, on sait aujourd'hui que le cannabis est devenu une culture de l'entertainment. Le rap, c'est un élément parmi, vous faites 360, parmi d'autres. Hein, je veux dire, évidemment, le rap est puissant, mais les fictions françaises ou américaines sont aussi puissantes. Et puis, je pourrais citer plein d'autres exemples. Et évidemment, aujourd'hui, on voit très bien aux États-Unis que la question de la marijuana et du cannabis est devenue une industrie lourde. Il y a un imaginaire mondial qui est extrêmement puissant. Et ça, la France va être percutée. Par contre, nous, on n'a pas de discours aujourd'hui en direction de la jeunesse pour expliquer ce que c'est. Et c'est ça notre problématique.
Ben merci Bruno. Avant de se quitter, je te propose qu'on se replonge un peu dans les paroles, les lyrics et dans la musique. Tu as ressorti plein de CD, des tas de CD comme j'en ai pas vu depuis des années d'ailleurs.
Parce que j'ai fait cet exercice personnel.
Voilà. Est-ce que tu nous ferais une petite sélection parmi ces CD de tes petites pépites de l'histoire du rap qui nous parle de cannabis?
Alors, en direct.
On a plein de choses. Je vois du 50 Cent, du Public Enemy, voilà. Du Lunatic.
Obligatoirement, il y a du Method Man et Redman. Hein.
Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Hit the funk, dock the spot, smoke it on the train. So how did I get kissed the sky?
Voilà, on y est. On est high, obligatoirement avec eux. Il y avait du Raga Sonic. Il faut légaliser la ganja pour Raga Sonic.
Il faut légaliser la ganja, éliminer tous les vendeurs de meca. Écoute ça. Il faut légaliser la ganja, éliminer tous les vendeurs de meca. Écoute ça. Il faut légaliser la ganja.
Alors, change de disque, ok? Merde.
Il y a Octobre Rouge. C'est du vieux, mais c'est du lourd pour ceux qui connaissent Oxon, Sex et Skunk.
Ah, je connais pas ça. Voilà.
Un historique. Là, je sors des pépites. Hein.
On s'asphyxie dans la fumée, sexe et bise de shit ici. Illicite, vie de site et vide, ça dit l'esprit ici. Je t'explique, ça se moque si t'es menotté ici. Fuck la haine, on veut sauter des haies, mais on est bloqué ici. Sans issue, ça sent le sang ici. Les gens se plantent tant que le diable ne hante. J'ai la haine quand je chante dans le vent ici. Violence, à penser qu'on est bon qu'à ça ici.
Et puis après, vous avez les générations, là on va en plus les L.I.M., les Alibi Montana, qui eux racontent, il y a 10 ans déjà, ce que c'est la vie d'un délinquant et d'un trafiquant. Donc en fait, vous avez dans le rap en fait, l'ensemble du spectre de ce que c'est aujourd'hui le cannabis, depuis la consommation jusqu'à ceux qui ont été eux-mêmes trafiquants et qui le racontent.
Là derrière moi, je prends l'illicite, sale Schmitt, viens nous sucer la bite pendant que j'effrite mon shit avec ta petite. Et si tu balances, tu connais la suite.
Et pourquoi est-on pour toi, pour ceux qui touchent à nos trafics?
Voilà, donc on pourrait passer des heures, je pense, sur le sujet. Parce qu'il y a aussi, aussi le fait que la musique accompagne une consommation.
Merci beaucoup, Bruno Laforesterie.
Merci beaucoup.
Banana Kush.
Hashish, cannabis, marijuana.
Ce serait donc cela, le secret de la banane.
C'était au nouvel an de 2020. Rien à voir avec faire la fête puisque je devais travailler. Je travaillais dans une crêperie, j'étais en Australie. Je m'étais roulé un petit spliff où je me suis dit je vais le fumer à la fin, une fois qu'on aura tout plié parce que sinon ça va être l'enfer. Donc une fois que tout était plié, il y a un gars, un des potes des patrons qui vient de me chercher en voiture. Il a commencé à conduire, moi j'ai allumé mon joint et il a allumé la musique. Et c'était un son de Nils Fram qui s'appelle Seis. Enfin, si vous écoutez cette musique, elle monte en crescendo. Elle est tellement douce, tellement reposante et elle est vachement tripante.
J'aime le beau. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux.
Et puis là, c'est lever de soleil. C'est le feu dans le ciel, c'est tout rose, c'était tellement rose, tellement beau. Et il y a cette musique qui commence. J'étais en Australie, c'était le 1er janvier 2020 et on aurait dit une scène de film, quoi. Le happy ending d'un film où j'étais en train de me dire, putain, passé une sacrée bonne année. Hein.
J'ai du flair.
Et bah voilà, de quoi remplir vos playlists.
D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous réclamer la playlist Banana Kush, avec tous les morceaux délicatement sélectionnés par Charlène, notre réalisatrice. Eh bien, c'est promis, on va vous la faire cette playlist.
Je suis pas prêt, attends.
En attendant, ce 26e interlude de Banana Kush touche à sa fin. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir. Comme les rappeurs, on a besoin de force pour continuer, donc allez streamer où vous voulez, mais faites ça fort.
C'était Camille et Christophe au mic en freestyle.
Charlène Noyux à la prod.
Sans bavure, Charlène.
On se retrouve dans 15 jours avec un invité, un musicien.
Mais non.
Bah si, mais c'est pas fait exprès, hein, c'est comme ça. En tout cas, sache que ce n'est pas un rappeur. Mais c'est pas de ma faute à moi si tous les icos bédavent comme c'est pas permis.
Moi, en attendant, restez jusqu'au bout du générique comme d'hab. Hein. Vous la connaissez, vous l'attendez, c'est la banane de fin.
Ciao.
Ciao.
Alors toi Camille, si tu devais choisir un seul morceau de musique qui parle de weed, ce serait lequel ?
Alors ce serait The Pusher, mais la version de Nina Simone.
If I was the president of Yemen, of this land, I'd declare total war on the Pusher man. Hear me now.
Ah ouais, ok, classe.
Et ouais, classe. Et toi ?
Fume à fond de Lorenzo.
Ah oui.
À toutes les soirées obligées, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons.
Autre ambiance, mais je ne te juge pas, c'est promis.
Je vois ton regard, tu sais. Hein.
Mais non,
je vois
j'adore.
Ton regard. Tu me juges, tu me condamnes même. Alors tu sais quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme d'habitude à Charlène le choix de la chanson de fin.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Elle fait des manières, elle veut de la banana. Et ça date pas d'hier, cigare à la Havana. Elle fait des manières, elle veut de la banana. Je dois la rendre fière, gros bisous à la mama. Banana que je, banana que je, banana que je, banana sa couche, banana que je, banana que je.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.